Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAC de l'IMO. Nous sommes le vendredi 26 mars 2021. Et sous ce froid de fin de mois de mars, après quelques beaux jours, eh bien on va attaquer ce dernier jour de la semaine. On va commencer avec une heure d'info, comme d'habitude. Dans quelques minutes, nous découvrirons la solution proposée par Bernie aux investisseurs qui pourraient faire face à des problèmes d'impayés de loyer. Nous irons ensuite du côté de la start-up Unlatch, qui dévoile son premier baromètre de la promotion immobilière en France. Et puis un peu plus tard, un peu avant 8h, nous découvrirons un chiffre qui peut-être affoler. Sachez que les emprunteurs en CDD représentent moins de 2% des dossiers pour les financements immobiliers. On écoutera tout ça dans quelques instants. Et puis un peu avant 8h, je vous proposerai de réécouter le portrait, le MAC de l'IMO, de Cédric Laveau, le vice-président du fichier Amépi, que nous avions rencontré, c'était en septembre dernier, aux côtés de Sylvain Lévy-Valency. Mais en attendant, place à l'info, place au MAC de l'IMO.
Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Bernie propose aux investisseurs des solutions contre les impayés de loyer, un système très rassurant pour les propriétaires que nous décrit aujourd'hui dans le MAC de l'IMO son cofondateur Gaëtan Matet. Il est au micro de Christophe Bordet.
Dans le MAC de l'IMO cette semaine, nous accueillons Bernie, la première agence immobilière à proposer aux propriétaires et aux investisseurs une solution contre la vacance locative et les loyers impayés, un revenu constant aux propriétaires. Dieu que la promesse est belle. Digne représentant de Bernie, cofondateur Gaëtan Matet est avec nous. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Christophe. Merci
beaucoup
de nous avoir invités.
Oh ben je vous en prie. Alors Bernie se positionne directement comme locataire de biens et non comme intermédiaire à l'image des agences traditionnelles. Concrètement, c'est-à-dire ?
Oui, absolument. Vous avez presque tout dit. C'est une très belle synthèse. Concrètement, ça veut dire que si un propriétaire a un bien vacant, il peut venir voir Bernie et Bernie vient lui louer directement son bien. Donc c'est Bernie qui devient le locataire du bien, de l'appartement ou de la maison. Et à partir du moment où c'est le cas, Bernie s'engage contractuellement à lui payer son loyer, qui est un occupant ou non dans le bien, que l'occupant paie ou non son loyer. Et du coup, par la même occasion, Bernie s'occupe de la gestion opérationnelle du bien.
D'accord, donc c'est quand même très rassurant pour le propriétaire, quelque part, parce qu'il y a une prise en charge. Quand on sait qu'aujourd'hui, quand même, être propriétaire d'un bien que l'on loue, c'est jouer un peu parfois avec le feu. Il y a toujours un risque. Et puis la crise là, qui s'annonce, le cas échéant, après la Covid-19, et ceux qui perdent leur emploi, qui pourront peut-être plus payer leur loyer, etc. Si on fait appel à vous, on se sent rassuré quand même.
Oui, absolument. Alors, on a plusieurs offres, mais l'offre à revenu garanti, c'est celle qui connaît le plus d'engouement parce que il y a un sentiment de sérénité, de fiabilité qui se dégage de l'offre. Et donc oui, ça répond à cette problématique-là que certains propriétaires peuvent avoir. Après, bon, dans de nombreux cas, les locations se passent correctement et les personnes sont capables de payer leur loyer. Maintenant, ce qu'on apporte en plus, c'est notre expertise et on permet aux propriétaires de venir proposer son bien à un loyer qui est le loyer de marché. Et on vient lui permettre d'avoir des occupants qui vont prendre soin du bien, qui vont
C'est-à-dire que vous faites une sélection, vous faites une sélection des locataires.
Oui, absolument. Ça va toi. On s'assure tout simplement que les personnes qui demandent à vivre dans le bien peuvent vivre dans le bien, sont capables de payer leur loyer et vont prendre soin du bien. Et en fait, la différence dans notre modèle, du coup, avec un modèle plus traditionnel, c'est que on est dans le même bateau que le propriétaire. Donc, si quelque chose se passe mal, c'est à nous de répondre parce qu'on est le locataire du bien et du coup, on est censé pouvoir à tout moment rendre le bien au propriétaire dans l'état dans lequel il nous l'a donné.
C'est-à-dire que le propriétaire peut très bien vous dire à un moment, on stoppe le contrat et je récupère en main propre, si je puis dire, mon bien, quoi.
Voilà, et ce que je veux dire, c'est qu'il est, à ce moment-là, il est censé récupérer le bien dans le même état que l'état
alors,
dans lequel il nous a laissé.
Expliquez-moi une chose.
Juste une petite chose, pour être précis tout de même, c'est important. Le propriétaire peut récupérer son bien, mais dans les limites de ce que prévoit, bien sûr, la loi Allure. Donc, ça veut dire que s'il veut récupérer le bien alors que le bien est déjà occupé, il peut le récupérer s'il veut vivre dedans, si une personne de sa famille doit y
loger. Oui, bien sûr.
Ce sont des critères classiques de la loi Allure. Voilà.
Mais alors, dites-moi, Gaëtan Matté, pour bien comprendre, puisque vous êtes le locataire du bien et que vous reversez de l'argent au propriétaire, comment vous faites si jamais. Mais par exemple, le locataire ne peut plus payer du jour au lendemain parce que, je le disais, par exemple, il perd son emploi, sa situation change d'un coup d'un seul, etc. Comment vous faites pour vous payer, quoi, je veux dire ?
Bah, ça fait partie du jeu. Hein. Quand vous proposez des garanties, il y a des moments où ça se passe pas correctement et c'est à vous, c'est à la société, de faire face. Et c'est déjà arrivé en l'occurrence. On a déjà eu des personnes qui ont payé avec du retard ou des personnes qui ont à un moment arrêté de payer. Et donc on a dû gérer la situation. Voilà. Et pour le propriétaire, c'est quelque chose qui est transparent. Donc lui, il continue de percevoir son revenu garanti, même pendant cette période de trouble. On l'informe qu'il y a des événements en cours, mais mis à part ça, lui continue de recevoir son revenu.
Ensuite, est-ce que oui, allez-y.
Nous-mêmes assurés. Aussi, donc on a nous-mêmes souscrit à différentes assurances auprès de grands acteurs pour être certains de pouvoir gérer tous les cas de figure.
En quelques mots, il nous reste 20 secondes. Comment s'annonce cette année 2021 pour vous ?
Elle s'annonce plutôt bonne. Au deuxième semestre, on prévoit d'ouvrir de nouvelles villes. Pour l'instant, on est à présent en Île-de-France et on prévoit d'être présent aussi à Lille, à Lyon et à Nice. Donc ça s'annonce bien. On a des recrutements en cours. On en a 6 en cours. Donc ça va.
Donc Bernie en plein développement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce mag, Gaëtan Matté, à ce mag de l'IMO. Rendez-vous à retrouver sur nos réseaux sociaux. À bientôt.
Le mag de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
À l'annonce d'un nouveau confinement, les professionnels de l'immobilier sont rassurés. Les visites sont encore possibles, avec quelques contraintes toutefois, que nous rappelle Vincent Favero.
Une crise qui n'en finit pas et un nouveau cycle qui recommence. Conférence de presse, décret d'application, nouvelles mesures. Ce 18 mars 2021, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un reconfinement dans 16 départements, principalement l'Île-de-France et le nord du pays. Le monde de l'immobilier est resté pendu aux lèvres du Premier ministre et après l'allocution, les discussions étaient engagées pour qu'une possible continuité d'activité soit possible et elle l'est en partie. Pour commencer, les visites restent autorisées. Acheter ou vendre son bien reste donc possible et peut même justifier de sortir de son département. Attention, en revanche, il faudra que la recherche se fasse pour son logement principal. Exit donc les résidences secondaires par exemple. Des visites qui devront se tenir avec des mesures sanitaires fortes, gestes barrières, port du masque et désinfection des surfaces, des procédures que les agents sur le terrain ont bien intégrées depuis quelques mois maintenant. Côté agence, ce sera porte close, interdiction d'ouvrir les portes aux clients potentiels. Les contacts devront se faire à distance par les sites internet ou encore par téléphone. Pour rappel, seuls les commerces de première nécessité peuvent ouvrir dans cette nouvelle période. Enfin, les chantiers devraient pouvoir continuer à tourner, c'est ce qu'a laissé entendre la Fédération française du bâtiment à la presse. L'activité pourra continuer et les nouveaux logements ou les rénovations se faire. Des mesures contraignantes à nouveau, mais cette fois pour 16 départements seulement au 22 mars 2020. 16 départements qui regroupent tout de même un tiers de la population française.
Le Mag de l'Immo revient avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Bonjour, c'est Philippe Boyer. Retrouvez-moi chaque mois dans Complètement à l'Ouest. Économie, art, sciences, gastronomie. Des invités prestigieux analysent le monde qui nous entoure et décryptent notre société. Bref, ils nous parlent de tout, sauf d'immobilier. Rendez-vous mardi à 19h sur Radio Immo. Alors, prêt à mettre le cap à l'Ouest ?
Allo Radio Immo, c'est vous les journalistes. C'est vous qui posez vos questions. Pour y répondre, les meilleurs experts. Agents immobiliers, assureurs, avocats, comment acheter sa maison au meilleur prix? Comment négocier le prix d'un loyer avec son propriétaire? Comment ne pas se faire arnaquer par un artisan peu scrupuleux? Les experts d'Allo Radio Immo vous répondent chaque vendredi à 9h sur Radio Immo. Alors, à vendredi!
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
La start-up Unlatch, plateforme en marque blanche destinée aux professionnels de l'immobilier, publie son premier baromètre de la promotion immobilière en France. Le cofondateur d'Unlatch et directeur général, Thomas Rivoire, commente ses résultats, comment la crise du Covid a fortement impacté l'activité immobilière des promoteurs, mais également leur confiance pour l'année 2021 qui a commencé. Une interview de Bérénice Derville.
Lancée en 2018, Unlatch est la plateforme en marque blanche destinée aux professionnels de l'immobilier. Les promoteurs, les commercialisateurs, les foncières immobilières et les bailleurs sociaux. C'est un logiciel SaaS qui leur permet de digitaliser tout leur processus de vente et de le rendre beaucoup plus simple et plus rapide. Avec nous ce matin, l'un des trois associés d'Unlatch, directeur général, cofondateur, Thomas Rivoire, qui va nous parler du premier baromètre de la promotion immobilière en France publié par Unlatch. Bonjour Thomas Rivoire.
Bonjour.
Déjà, comment vous est venue cette idée de baromètre de la promotion immobilière et sur quoi se base ce baromètre?
On a créé ce baromètre notamment en raison du contexte, parce que la promotion immobilière, notamment toute la construction dans le neuf, était un sujet assez présent dans les médias en raison notamment du Covid de l'année dernière. Donc l'idée, c'était de mesurer tant les impacts du Covid sur la promotion immobilière que le niveau de confiance de nos clients promoteurs immobiliers sur l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce baromètre afin de sonder un échantillon représentatif de l'ensemble des régions françaises et de voir l'impact qu'avait eu le Covid sur leur activité. Donc finalement mesurer un petit peu le passé et aussi essayer de prévoir un petit peu l'avenir par rapport à leur confiance sur la construction dans le neuf.
Et alors justement, l'échantillon représentait combien de promoteurs immobiliers?
Alors, c'est une centaine d'accord, de promoteurs immobiliers de taille un petit peu différente et qui représentent un petit peu toutes les régions de la France. Donc, ce qui nous a permis de faire un baromètre tant au niveau national qu'un baromètre décliné au niveau régional.
Quelle est la première conclusion?
Alors, la première conclusion, elle est assez connue, hein, c'est qu'une forte baisse de l'activité liée à la crise du Covid en 2020. Enfin, au niveau national, je vais plutôt parler au niveau national pour avoir un petit peu l'image un petit peu sur le niveau français. 73% des promoteurs ont subi une baisse de leur mise en commercialisation. En fait, en 2020, le Covid a entraîné vraiment une baisse très très significative des lancements de programmes immobiliers. Donc une baisse des lancements fait qu'on va manquer de logements neufs dans les mois et les années qui viennent, parce qu'il y a eu très peu de lancements en 2020 chez nos clients promoteurs.
Et justement, vous avez identifié des freins concernant ce manque de logements neufs. Quels sont ces freins?
Alors les freins, il y en a plusieurs sur ce manque de logements neufs, notamment les permis de construire. Qui est un des principaux freins qui revient dans l'étude qu'on a faite, et le manque de foncier. C'est vraiment les deux freins qui ressortent. Après, on a l'excès de recours aussi, ou la difficulté de financement qui peuvent apparaître, mais en troisième position pour l'excès de recours et en quatrième position pour la difficulté de financement. Mais c'est vraiment la lenteur d'obtention des permis de construire et le manque de foncier qui sont des freins importants au niveau national sur la construction de logements neufs.
Et tout à l'heure, vous parliez de la confiance des promoteurs. Comment se sentent les promoteurs actuellement?
Il y a beaucoup d'incertitudes, hein, surtout parce qu'on n'est pas sorti finalement. On pensait que 2021, on allait un petit peu voir le bout du tunnel et que la situation, la vie d'avant allait revenir. C'est pas encore le cas. Donc le niveau de confiance, il est assez mitigé. Hein. Nous, au niveau national, ça ressort à 5,87 sur 10 le niveau de confiance.
Oui, ce qui est pas super.
Ce qui est moyen. Il y a une incertitude, je pense, sur la crise passée, donc 2020, sur l'arrivée du confinement, etc. Puis là, on est reparti dans un confinement. Donc, je pense cette incertitude qui est liée au vaccin, qui est liée au confinement, à tout ça.
Tout à l'heure, vous parliez des difficultés de financement. Le HFCF, le Haut Conseil de Stabilité Financière, a assoupli certaines conditions d'octroi des financements. Est-ce que vous pensez que ça va changer les choses pour l'immobilier neuf?
Bah, c'est une bonne chose. Après, nous, justement, dans notre baromètre, il ressortait que c'était que les promoteurs sentaient que c'était plus difficile, en tout cas en 2020, pour les acquéreurs d'obtenir un financement, ce qui a été vrai. Donc là, ça a été assoupli. Donc ça va dans le bon sens, en espérant que ça continue et que la crise économique qui potentiellement arrivera dans les mois qui arrivent, enfin dans les mois prochains, pardon, parce que je pense que le Covid, qui est une crise sanitaire, va certainement se transformer par une crise économique, pourra avoir aussi des impacts sur le financement et sur le financement des acquéreurs.
Donc il y aura un impact. Donc des conséquences sur le moyen terme en fait.
Ouais. Ben ça, c'est pareil, c'est dans l'incertitude, je pense qu'on mesure, ça en fait partie. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des PGE, on sait qu'il y a des aides qui sont faites aux différentes entreprises, donc aux entrepreneurs, aux gens aussi qui sont finalement les acquéreurs de ces biens immobiliers. Et est-ce que ces sociétés-là vont pouvoir perdurer avec la fin du PGE? Est-ce qu'il n'y aura pas un chômage massif qui va arriver? Ça, c'est une incertitude. Voilà, on sait que l'État français veut injecter de l'argent pour éviter cette crise économique, mais voilà. Rien n'est moins certain.
Eh bien, merci beaucoup, Thomas Rivoire, pour cette interview. Et puis, à très vite sur notre antenne.
Ouais,
merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Après avoir été pénalisés par la réforme des APL, les alternants en contrat de professionnalisation bénéficieront bientôt d'un abattement sur revenu visant à limiter la baisse de leurs aides. C'est Nicolas Tarade qui nous explique.
C'était un trou dans la raquette de la réforme des APL. Les alternants professionnels ne bénéficiaient pas du filet de sécurité destiné à neutraliser les baisses d'allocations logement induites par la réforme. Alors c'est passé un peu inaperçu avec l'annonce de nouvelles mesures de restrictions sanitaires dans 16 départements français, mais ça a bougé. Cette semaine, les alternants en contrat de professionnalisation en décembre 2020 et qui le sont toujours actuellement et qui ont connu une baisse du montant de leur aide au logement depuis janvier dernier, eh bien pourront désormais bénéficier d'un abattement forfaitaire sur leurs revenus à hauteur d'un SMIC mensuel et voir ainsi le montant de leur APL recalculé. Cet abattement devrait être appliqué à compter du mois de septembre, ça c'est une première chose. Ensuite, dès le mois de mai, les allocataires en contrat de professionnalisation concernés percevront un rappel de leur aide au logement avec effet rétroactif depuis janvier. D'ici là, le montant de leur aide sera aligné sur celui perçu en décembre 2020, c'est-à-dire avant la réforme. On le rappelle, d'ailleurs, depuis le 1er janvier 2021, il existe un nouveau mode de calcul des allocations de logement. Plus de 6 millions de ménages bénéficiaires en France. À noter donc que le droit à ces prestations n'est désormais plus basé sur les revenus perçus 2 ans plus tôt, mais bien en prenant en compte les ressources des 12 derniers mois, avec une réactualisation tous les 3 mois.
Le Mac de l'Immo, l'emploi dans l'Immo, Aurélie Dantez.
Il est l'heure à présent de retrouver notre partenaire Recrutimo pour découvrir de nouvelles annonces d'emploi parues cette semaine. Et pour cela, on retrouve Aurélie Dantez, responsable de l'acquisition de talents chez Recrutimo. Bonjour Aurélie.
Bonjour Johanna et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 annonces parmi les offres d'emploi que nous avons sur recrutimo.com. La première, l'agence La Forêt à Colombes, dans le 92, recherche des conseillers en transactions. Au sein du réseau La Forêt, les 6 agences de Paris 17 et du 92 représentent aujourd'hui l'un des premiers franchisés du réseau. La deuxième, afin de renforcer son équipe commerciale, Orvea, située à Neuilly-sur-Seine, dans le 92, recherche un ou une commerciale rattachée au directeur général. Vous aurez pour mission principale de prospecter et de conquérir une clientèle B2B sur le périmètre défini de l'Île-de-France qui peut évidemment s'étendre au niveau national.
Et comme toutes les semaines, vous êtes venu avec un conseil pour les recruteurs et un conseil pour les candidats.
Si j'avais un conseil pour les recruteurs, aujourd'hui, avec le télétravail, les candidats sont de plus en plus à l'affût des offres d'emploi via les plateformes spécialisées du recrutement. En tant que recruteur, il est important d'utiliser les mêmes outils que les candidats et d'être visible. C'est pour ça qu'il est important de travailler votre marque employeur. Et pour les candidats, aujourd'hui, focus sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine. En bref, il conseille et apporte son expertise à des clients particuliers, mais également à des entreprises dans leur gestion de leur patrimoine immobilier et financier. Vous pouvez retrouver toutes les offres d'emploi sur recrutimo.com. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Aurélie, on vous retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles annonces et de nouveaux conseils. Et en attendant, eh bien, direction le site www.recrutimo.com pour découvrir des milliers d'annonces d'emploi dans l'immo.
Le Mac de l'Imo revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity mind. So I tried a little Freddy. I've got an answer to him.
Ce vendredi matin avec ce succès de Mika, ça s'appelle Grace Kelly.
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Après l'exode rural, l'exode urbain, une question assurément dans l'air du temps. La crise sanitaire a rebattu les cartes de l'immobilier, du marché de prestige en particulier. Dans son sillage, le retour en grâce de la résidence secondaire et l'apparition du concept de résidence dite semi-principale. Pour Barnes, il s'agit d'une lame de fond, en partie liée à la réorganisation des vies professionnelles de chacun. Selon Bertrand Couturier, qui est directeur associé de Barnes Propriétés et Châteaux, la tendance est en tout cas notable. Les réponses au micro de Nicolas Tarade.
Bertrand Couturier, bonjour.
Bonjour.
Alors une première question aujourd'hui sur, on le sait, avec la crise sanitaire, il y a des envies d'ailleurs, des envies de plus d'espace, de plus de verre. Comment vous le voyez? Comment vous analysez cette situation?
Effectivement, les conséquences de la crise du Covid sont importantes sur l'immobilier. On a constaté très rapidement, après le début de la crise, pendant le premier confinement, une augmentation des consultations sur les portails immobiliers et sur les sites immobiliers de Barnes, qui nous ont fait comprendre que les gens allaient certainement avoir une vision différente de l'habitat pour les mois à venir, mais probablement pour de nombreuses années.
Vous avez évoqué un concept de résidence semi-principale. Ça veut dire quoi, ce concept ?
Mais ça, c'est lié au télétravail, c'est-à-dire que cette période qui est maintenant longue, puisque ça fait plus d'un an que ça a commencé, a mis en lumière la possibilité que beaucoup de métiers et de fonctions dans les différentes entreprises pouvaient être faites à distance. Et donc, à partir du moment où on débloque l'obligation d'être à proximité de la ville, on peut imaginer avoir envie d'habiter ailleurs que dans une petite surface, parce que les prix sont beaucoup plus importants, et avec des espaces vers là où dans les zones urbaines il y en a de moins en moins.
Ailleurs, ça veut dire où? Ça veut dire qu'il y a des destinations entre guillemets préférées? Il y a quelques zones par-ci par-là en France?
Tout est lié à plusieurs éléments. Le premier, qui est assez intéressant parce qu'on l'a noté régulièrement, c'est éventuellement la région d'origine des gens qui pensent à repartir. Donc on voit souvent des Bretons consulter pour essayer de trouver des biens dans la région Bretagne, c'est assez logique. Il y a une constante, c'est que s'ils ont un lien encore assez fort avec la métropole dont ils dépendent, professionnel, j'entends bien, ils vont souhaiter être à moins de 2 heures de la ville en question. Aujourd'hui, avec les lignes TGV, il y a beaucoup de villes qui sont à moins de 2 heures, même de Paris, puisque Bordeaux est à 2h10. Donc, on a vu pas mal de Parisiens aller à Bordeaux. Et on peut imaginer que d'autres métropoles peuvent, comme ça, nourrir des régions entières partout où c'est à moins de 2 heures de cette métropole.
Et au niveau des prix, est-ce que vous voyez des fluctuations de prix, justement, dans ces zones concernées par une arrivée plus ou moins massive d'urbains?
Alors c'est amusant, c'est que depuis 2010, il y avait une tranche de clientèle qu'on ne voyait plus sur les biens de campagne, c'était les jeunes. Et il se trouve que cette crise du Covid a déclenché chez les jeunes une vision différente de la campagne. Ils l'avaient oublié, ils considéraient que c'était souvent un caprice qui était onéreux, et ils préféraient l'idée de se dire que leurs dépenses de vacances étaient portées vers les voyages, vers l'étranger, vers la découverte de nouvelles cultures, ou la recherche du soleil par exemple. Le Covid a redistribué les cartes, et aujourd'hui on a la chance de voir des jeunes arriver sur le marché. Alors, pendant cette période de 2010 à 2019, les prix de la campagne en France avaient beaucoup chuté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait que peu d'acheteurs. Le Covid a redistribué les choses, l'offre et la demande sont beaucoup plus équilibrées, et donc aujourd'hui on commence à voir les premières conséquences sur les prix de cet engouement, c'est-à-dire que bien évidemment ça ne descendra pas plus bas, mais c'est en train de remonter. On a des zones où on voit des progressions sur l'année aux alentours de 5 ou 10% pour les plus belles zones.
Comment vous voyez les mois, les années à venir? Est-ce que vous pensez que ce phénomène que l'on constate aujourd'hui, c'est un simple phénomène finalement passager, ou c'est quelque chose qui sera amené à durer, qui sera quelque chose de pérenne? Bon, c'est toujours délicat hein, de prédire une situation, surtout quand on est dans une pandémie mondiale comme la nôtre, mais comment vous voyez les années à venir?
Nous étions un peu choqués du fait que les jeunes ne s'intéressent plus à la campagne ou ne la regardent plus, parce que c'est quand même l'origine de l'homme, quoi. On vient tous, on a tous forcément des arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs. Donc cette coupure du lien avec la nature, moi, me frappait beaucoup. Je pense que quand les urbains vont redécouvrir ce qu'est la nature, vont avoir la chance d'élever des jeunes enfants avec beaucoup plus de temps passé à la campagne, ils vont retourner à leurs racines, et donc je pense que ça sera durable. C'est-à-dire que on devrait avoir, je pense, beaucoup de jeunes dans les années à venir qui vont chercher à avoir une résidence au contact de la nature. Ça peut être le bord de mer aussi, hein, pour les plus passionnés de bateaux, ou ça peut être la montagne pour les gens qui aiment non seulement les sports d'hiver, mais également l'altitude. Donc, pour toutes ces destinations, je pense qu'on on aura dans les années à venir une clientèle importante.
Eh bien, Bertrand Couturier, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin dans le Mac de Limo sur Radio Imo.
Le Mac de Limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Un an après le début de la crise sanitaire, une étude montre que beaucoup de Français ont profité de cette année pour améliorer leur intérieur. Vincent Favreau nous décrit ce phénomène.
Près d'un Français sur deux a profité de l'année de crise sanitaire que nous venons de traverser pour embellir son logement. C'est le résultat d'une étude effectuée par CSA Research pour Cofidis que rapportent nos confrères du Figaro Immobilier. 48% des Français interrogés ont donc déclaré avoir effectué des travaux ou des améliorations dans leur logement, avec des budgets que les professionnels de l'aménagement et les boutiques de décoration ont dû voir passer en moyenne 4 772 euros pour ces travaux et déco. Une moyenne qui cache quand même des disparités. La moitié des sondés disent avoir quand même dépensé moins de 1 300 euros. Du côté de l'aménagement, il s'agit principalement de travaux de décoration dans les pièces à vivre, d'achat de nouveaux meubles ou de décoration. Un quart des sondés exprime même avoir fait ou être sur le point d'effectuer la réfection de la cuisine ou de la salle de bain. Enfin, côté sociologie, de ces Françaises et Français ayant effectué des travaux sur cette dernière année particulière, il faut compter que 56% sont des propriétaires, des classes supérieures à 59% et 61% télétravaillaient et ont donc consacré ce budget pour un logement qu'ils occupent aussi pour le travail. Une année qui a donc décuplé les envies des Français de refaire leur logement, logique dans un pays où 83% des habitants se revendiquent comme passionnés par la décoration, comme le révélait un sondage à Harris Interactive en 2017. À l'époque, ils n'y consacraient en moyenne que 400 euros par an, bien loin du record de certains cette année.
Le Mac de Limo revient avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Décret tertiaire et rénovation énergétique des bâtiments. Axéo Énergie vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z. Audit énergétique, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements, une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Axéo Énergie, www.acceo.eu. Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
Bonjour, c'est Christophe Bordet sur Radio Imo. Je vous propose de découvrir ensemble les lieux qui comptent pour les stars. Chaque mois, dans l'émission La Maison où je vis, un écrivain, un chanteur, un comédien nous raconte les maisons, les appartements, les monuments qui ont marqué et qui marquent encore leur vie. Vous êtes curieux? Alors visitons ensemble leurs espaces de vie. Découvrons leur intérieur, leurs tendances déco. Suivez-nous sur Radio Imo, La Maison où je vis. C'est le vendredi à 20h. On compte sur vous.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Mastéos aide les particuliers à investir, à rénover et à louer. C'est un service 3 pièces très pratique et ultra complet. Mais comment fonctionne-t-il? Pour tout savoir, Christophe Bordet a joint l'un des dirigeants de Mastéos, Thierry Vignal.
Dans ce Mac de Limo, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Vignal, cofondateur de Mastéos. Bonjour Thierry Vignal.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mastéos, le temple du locatif, start-up PropTech. Des milliers de particuliers font appel à vous pour investir clé en main puisque vous aidez à trouver le bien immobilier au bon endroit, vous aidez à la rénovation et puis vous gérez même les locataires. Bref, j'ai envie de vous dire, c'est un service ultra complet. Racontez-nous comment ça fonctionne.
Absolument, on aide les particuliers à se lancer dans l'investissement locatif. On est côté acheteur et c'est une particularité qu'on revendique parce que souvent les investisseurs actuellement vont voir des agents immobiliers qui sont plutôt côté vendeur et on accompagne l'investisseur sur l'ensemble de la chaîne. Donc comme vous l'avez dit, on trouve le bien, c'est notre filiale transaction, on le rénove et on l'ameuble, c'est la filiale rénovation et on met en location et on fait la gestion locative du bien sur notre dernière filiale de gestion.
Donc c'est vraiment très complet. Et ça les gens, ils sont particulièrement sensibles.
Oui, parce que avoir un seul interlocuteur pour 3 métiers différents, c'est quelque chose qui n'était pas forcément proposé jusqu'à présent, ou alors de manière partielle, parce qu'on va sous-traiter souvent les tâches les plus opérationnelles. Donc on a des intermédiaires côté acheteur, mais qui vont sous-traiter les travaux, sous-traiter la gestion. Nous, on l'intègre à 100%, et tout ça se fait autour d'une app. L'app, elle permet d'avoir un suivi digital de son projet, elle permet d'avoir un matching des biens, des bons investissements avec les bons investisseurs, et elle permet d'avoir un suivi non seulement transactionnel, mais aussi de la performance locative de son parc.
Comment est née cette idée dans votre esprit? Vous-même, vous avez été confronté justement à l'achat d'un bien, avec tout ce que ça signifiait habituellement avec un agent immobilier?
Il y a de ça, il y a mon expérience personnelle, parce que je viens du droit immobilier et de la fiscalité immobilière, j'ai travaillé en finance également, et au croisement de ces trois compétences, j'ai voulu reproduire une société qui puisse accompagner, mais avec un accompagnement vraiment technique, un accompagnement d'experts, avec des arbitrages fiscaux, des arbitrages juridiques, notariaux. Et mon background m'a permis de faire ça. Et effectivement, je me suis lancé dans un premier investissement au Havre, qui s'est très mal passé, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire pour mieux accompagner les particuliers non-experts de l'investissement locatif. C'est une classe d'actifs à part entière, qui demande énormément d'expertise, de temps et de réseau.
Thierry Vignal, est-ce qu'il y a des territoires, des régions, justement, où il fait meilleur investir que d'autres ? Parce qu'il y a l'importance aujourd'hui, par exemple, du jardin, du balcon, de la terrasse, hein, avec la crise Covid, on a vu ça. Est-ce qu'il y a des régions, justement, où il est plus intéressant pour cela d'investir que d'autres ?
Ça se quantifie très mal, la présence de terrasses. Nous, on travaille avec de la data, donc on va exploiter toutes les infos et les données publiques sur les rendements locatifs des villes, sur le niveau de demande locative qu'on arrive aujourd'hui à quantifier grâce à des providers de données. Et on va mettre sur un gros calculateur toutes ces données pour faire ressortir les villes qui ont le meilleur couple rendement-risque. Les villes, c'est rarement les plus sexy, parce qu'en général, une ville qui est très prisée va être très chère et du coup pas rentable, vu que le grand moteur de la rentabilité, c'est pas le loyer, c'est le prix. Donc on va souvent sur des villes un peu moins chères, donc plus rentables. Et le but est de trouver des villes qui soient à la fois pas chères, rentables, mais aussi avec un potentiel d'appréciation, avec un sous-jacent économique sain. Donc voilà, c'est vraiment un grand algorithme qui va croiser plusieurs critères. Et la présence de jardin est quelque chose qu'on a du mal à prendre en compte sur des algos, mais qui est intéressante.
Et par exemple, je ne sais pas, quand vous dites des villes, Limoges par exemple ?
Limoges, non. Pour répondre très précisément à votre question, on va être très présent sur les Hauts-de-France par exemple, parce que c'est des zones à forte demande locative, dans la région lilloise notamment, où les prix sont encore assez faibles et du coup les rentabilités sont préservées, tout en ayant un risque locatif faible.
Est-ce que vous constatez, Thierry Vignal, que beaucoup plus de Français encore investissent dans l'immobilier ces derniers mois avec la crise, parce que tant qu'à mettre ses économies quelque part, autant les mettre dans la pierre?
Oui, alors les agences étaient fermées pendant le confinement. Nous, on a travaillé avec des caméras 3D, ce qui permettait à nos investisseurs de faire des visites virtuelles, et puis ils pilotent leur projet depuis Naples. Donc le fait de digitaliser, ça permet d'être mieux préparé face à ce genre de crise. Mais effectivement, les Français ont beaucoup épargné pendant la crise, n'ayant aucun objet de consommation, et du coup les apports ont été reconstitués. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des investisseurs et du coup des emprunteurs qui ont des bons niveaux d'apport et qui ont du coup des meilleurs dossiers d'emprunt. En parallèle de ça, les banques ont desserré les vannes du crédit, donc on observe une reprise de l'investissement, alors qu'il a été très froid l'année dernière, il reprend cette année de manière assez massive.
Merci Thierry Vignal, cofondateur de Mastéos, d'avoir été avec nous. Podcast à retrouver bien sûr sur Radio Immo. À très vite.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Un chiffre qui peut affoler, les emprunteurs avec un contrat CDD représentent seulement 1,2% des dossiers en 2020 chez vous financés. Les explications de Vincent Favéron.
Une étude du courtier Vous financez dessine une sévère absence dans les profils des emprunteurs, car en 2020, 87,4% des emprunteurs sont en CDI chez le courtier. Les CDD ne représentent à côté que 1,2% des profils chez Vous financez et ses 200 agences en France, et ce chiffre est même en baisse de 0,1 point sur un an. En comparaison, sur l'ensemble des contrats en France, si les CDI se situent dans une fourchette qui navigue entre 85 et 89% des contrats selon les années, il faut compter sur environ 12% de contrats en CDD au total dans la population française, bien loin des 1,2% des profils emprunteurs. Et ils sont aussi peu nombreux, c'est aussi parce que l'état de la société a changé, c'est ce qu'explique Vous financez avec ces chiffres. qui, selon le courtier, freine les banques. 85% des CDD sont signés sur des durées inférieures à un mois en 2020 contre 57% en 1998. Et seul un CDD sur 5 devient un CDI au bout d'un an contre 1 sur 2 en 1982, selon les chiffres de France Stratégie partagés par Vous Financez. Des problématiques d'accès à l'emprunt qui précarisent toute une partie de la population en CDD donc, mais ils ne sont pas les seuls. Selon les agences Vous Financez, les créateurs d'entreprises, 27%, les intermittents du spectacle, 21%, et les auto-entrepreneurs, à égalité avec les CDD, sont les dossiers les plus complexes à financer actuellement. Une situation qui a tendance à se durcir. Près de la moitié des agences disent avoir eu des refus des banques sur ces profils, contre 31% des répondants en 2019. Une étude qui souligne donc la fragilité de certains emprunteurs et la frilosité des banques. Il est donc encore préférable en 2021 d'obtenir un contrat en CDI plus rassurant pour les organismes prêteurs afin d'obtenir un prêt et donc un bien immobilier derrière.
Le Mac de l'Imo revient avec Promis, Crédit Advisor et Opinion System. Superstar, j'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. Sortez les dollars et les bijoux,
mettez-vous à genoux.
Dans la Jaguar, dans la Gadou, mettez-vous à genoux, toi mon tout mon loupard. Tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. J'ai tellement besoin d'amour, tu ferais de moi ta belle de jour. De kidnapping, de quitter mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling, et que le meilleur gagne sur le ring. Toi mon tout mon loupard, tu serais mon lascar superstar. Et moi j'ai si peur dans le noir. Maintenant
avec les chansons qui font du bien un vendredi matin. C'était Brigitte avec Battez-vous.
Le Mac de Limo, permis de démolir, Robin Rivaton.
Et comme chaque semaine, on retrouve l'édito de Robin Rivaton qui jette un œil sans complaisance au monde de l'immobilier.
Aujourd'hui, nous allons parler de propriété partagée. Qu'est-ce que c'est ? La propriété partagée du résidentiel. D'abord, retenez votre respiration. On va commencer par un chiffre énormissime qui est la valeur de tout les biens résidentiels dans le monde. Une idée, c'est représente exactement 200 000 milliards de dollars. 200 000 milliards de dollars, c'est le double de toute la valeur des actions dans le monde. C'est 200 fois la valeur du Bitcoin pour les amateurs de crypto-monnaie. Et donc, c'est une somme absolument gigantesque et une somme qui, au final, est très peu liquide. Elle est très peu liquide car quand vous devenez propriétaire de votre maison, il est difficile d'en vendre un bout, il est difficile de faire rentrer un co-investisseur autre que votre conjoint à côté de vous. Et donc, on a un patrimoine qui est extrêmement conséquent, dont on peut avoir besoin à des moments des étapes de sa vie et qui n'est pas liquide. Et donc, depuis quelques années, on voit émerger toute une panoplie de solutions innovantes, de solutions qui sont des solutions financières, qui permettent de rendre plus liquide la maison. C'est le cas notamment dans les pays anglo-saxons pour les primo-accédants. Aujourd'hui, dans les pays anglo-saxons, et pour faire la différence avec ce qui se passe en France, vous ne pouvez pas accéder à un emprunt à long terme si vous ne posez pas un apport conséquent. Cet apport qui va de 15 à 20% est demandé de manière quasi automatique par les banques ou alors on vous fait des conditions de crédit extrêmement désavantageuses. Or, 10, 15 à 20% de la valeur des biens est une somme aujourd'hui extrêmement importante. Et donc, certaines entreprises sont venues complémenter les gens pour les aider à complémenter leur apport. Et donc, vous apportez seulement l'épargne que vous avez, qui peut représenter 2, 3, 4, 5% de la valeur du bien. Et puis, ces entreprises vont venir vous aider pour atteindre ce palier des 15 ou des 20% en échange de prendre une participation, une part dans votre maison. Ils vont être co-investisseurs à vos côtés, à vous de pouvoir, au fur et à mesure, les sortir. D'autres modèles permettent de faire une propriété progressive. Vous investissez 5% dans la valeur de la maison au début, vous êtes locataire d'une entreprise et vous pouvez progressivement passer de 5 à 10, à 15, à 20, à 30, à 40, jusqu'à atteindre un montant qui vous permet d'avoir accès à un crédit bancaire qui vous permet de racheter l'ensemble. D'autres modèles encore vous permettent, si vous êtes propriétaire, de revendre une partie de votre maison, tout simplement parce que vous en avez besoin. Alors, en général, on ne vous achète pas cette partie si vous voulez partir aux Bahamas, c'est plutôt pour faire des travaux, c'est plutôt pour passer une conjoncture économique difficile, mais on vous propose de liquidifier, si vous me permettez ce néologisme, une partie de votre patrimoine immobilier pour passer le gros de la crise, voire même pour investir dans cette maison pour qu'en plus elle reprenne de la valeur. Je pense par exemple à une cuisine, à une véranda, à une extension, à une piscine, que sais-je encore. Et donc c'est un modèle qui a tendance à se développer et c'est un modèle à surveiller.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
L'opérateur national de vente, outil visant à massifier la vente de HLM, espère détenir 4000 logements à la fin de l'année. Il en assure le portage jusqu'à leur revente, en priorité aux locataires actuels. 2 ans après ses débuts, le bilan de l'ONV est encore modeste, mais Action Logement se montre rassurant et fixe des objectifs de long terme que nous dévoile Nicolas Tarade.
C'est un processus long, mais qui va monter en puissance et qui fera ses preuves. Le groupe paritaire Action Logement veut accélérer la vente d'HLM. Créé en 2018, l'opérateur national des ventes d'Action Logement, doté pour l'heure d'un budget de 666 millions d'euros, s'est vu assigner l'objectif d'acheter en bloc 40 000 logements sociaux en 10 ans auprès des bailleurs sociaux. L'idée, c'est d'assurer le portage financier de ces biens, de les rénover, de les revendre à leurs occupants à des conditions privilégiées, avec à la clé l'accès à la propriété à horizon 15 ans pour 33 000 ménages modestes. Voilà pour le postulat de départ. Mais aujourd'hui, 2 ans après ses débuts, le bilan de l'ONV est encore modeste. Il a acquis 3 433 logements dans 94 immeubles ou maisons, dont 300 ont bien été mis en vente, mais seulement 12 cédés pour de bon. Pour cette année, l'ONV promet la commercialisation de plus de 2 250 logements d'ici à la fin du premier semestre 2021. On l'aura compris, c'est donc le temps long qui va primer, d'autant que l'opérateur doit réhabiliter les logements avant de les vendre. La vente de HLM, un refrain connu depuis déjà 2 décennies, à maintes reprises, des ministres du logement, notamment de droite, n'ont eu de cesse de réclamer que les organismes d'urbanisme HLM mènent en vente une partie de leur parc qui s'élève au total à plus de 5 millions de logements. Mais les ventes n'ont jamais vraiment décollé. Et l'opérateur national de vente a donc lancé cette semaine son troisième appel à manifestation d'intérêt auprès des bailleurs sociaux volontaires.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Si vous étiez avec nous la semaine dernière, je vous avais annoncé la venue de Pierre Autus, le président de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Il devait être avec nous ce matin, mais il n'a malheureusement pas pu. Il viendra nous voir un peu plus tard dans la saison pour le Mac de l'Immo. En attendant, je vous propose ce matin d'écouter ou de réécouter le portrait que nous avions consacré à Cédric Lavaux, le vice-président du fichier AMEPI, un homme touchant que nous avions rencontré le 11 septembre dernier. J'étais aux côtés de Sylvain Lévy-Valency pour ce portrait. Je vous laisse en profiter. Après Cédric Lavaux, Allo Radio Immo, comme chaque vendredi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un Mac de l'Immo inédit, puisque nous recevrons David Abissira, le fondateur d'ImmoKeep Compta. On en reparle dans une semaine. Vous verrez plein de surprises à venir. Très bonne journée sur Radio Immo.
Le Mac de l'Immo revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System.